les écoles. Martin Kénéen.
Bienvenue à toutes et à tous. Entendez-vous, tout le monde ne parle plus que de la méthode et des écoles Montessori. Les nababs de la Silicon Valley qui mettent leurs enfants, comme le nouveau ministre de l'éducation français, Jean-Michel Blanquer, qui chante ses louanges. En France, la vogue Montessori vire même au phénomène de société, au sens propre et plein du terme. Après notamment le succès en librairie, dans les médias et dans bien des écoles, qu'elles soient privées ou publiques, d'un livre, Les lois naturelles de l'enfant, et des préconisations de son auteur, Céline Alvarez. Enfin, au cinéma, c'est désormais un film documentaire, Le maître est l'enfant, qui vante les bienfaits de la pédagogie initiée il y a plus d'un siècle en Italie par Maria Montessori, et qui sort en salle mercredi. Rue des écoles interroge donc aujourd'hui l'engouement que suscite cette méthode alternative et à certains égards concurrente de l'enseignement républicain traditionnel. Chemin faisant, toujours autonome et spontané, comme il se doit dans une école Montessori, Marie-Caroline Missir nous fera lecture à 17h30 de son journal de l'éducation en partenariat avec le magazine L'Étudiant. Bonjour Marie-Caroline.
Bonjour Martin.
Et puis en fin d'émission, ce sera Sophie Bobert, notre reporter, qui nous invite à apprendre des chevaux avec l'acteur et chuchoteur Thierry Lhermitte. Il est à présent l'heure de débattre et d'éclairer ce que nous chuchote l'école Montessori. Alors je vais faire l'appel auprès de nos trois invités. Patricia Spinelli.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut supérieur Montessori France. Vous êtes l'auteur d'Un autre regard sur l'enfant, un livre paru chez Desclés de Brouwers. Et on a pu vous entendre récemment sur France Culture dans ce beau documentaire de la collection Une vie, une œuvre consacrée à Maria Montessori qu'on peut retrouver sur franceculture.fr. À vos côtés, dans notre studio, Paul Devin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes syndicaliste FSU, inspecteur de l'éducation nationale, secrétaire général du SNPI FSU, le syndicat des inspecteurs, et puis vous êtes le tenancier, l'auteur d'un blog qu'on peut lire sur Mediapart, un blog affûté et parfois tranchant sur les questions d'éducation et qui a pu s'intéresser récemment notamment à la méthode et aux écoles Montessori. Et puis troisième invité, Alexandre Moureau, bonjour.
Bonjour Martin.
Vous êtes le réalisateur de ce film, de ce documentaire, ce premier long métrage consacré à la pédagogie Montessori, Le maître et l'enfant, qui sort en salle donc le 27 septembre. Mais la parole est à présent à Maria Montessori.
Madame Montessori, je sais que vous êtes l'auteur d'une méthode de pédagogie moderne à laquelle le monde entier s'intéresse actuellement. Voulez-vous nous dire quelle est cette méthode ?
Ma méthode consiste surtout de donner à l'enfant la possibilité de vivre naturellement et d'exercer sa spontanéité. Alors, je prépare un milieu où il puisse vivre comme dans une maison. Et dans ce milieu, je mets une quantité d'objets qui sont aussi scientifiques et qui servent au développement de son intelligence. Supposez, par exemple, que ce milieu est comme une maison, où les enfants ont leurs meubles, leurs petites choses pour la cuisine, pour la table, etc. Et qu'ils l'usent. Alors, ils commencent à aimer ce milieu comme une maison à eux-mêmes. Et il devient très actif, et dans cette activité, il s'ordonne et devient discipliné et heureux. Après ça, c'est le côté pratique, je mets aussi une quantité d'objets scientifiques pour le développement de l'enfant lui-même, psychologiquement considéré. Par exemple, pour l'éducation des sens, des objets par lesquels ils peuvent s'exercer dans la vue, l'ouïe, le tact, par des exercices qui sont intelligents en même temps et intéressants pour eux. Alors, quand l'enfant, au lieu de jouer simplement, use tous ces objets, il se développe, il ne perd son temps, il devient toujours plus intelligent, plus ordonné, plus discipliné, et c'est un avantage pour lui. La maîtresse est comme une directrice de cet ambiance. Elle aide l'enfant dans son activité, mais ne le trouble pas, le laisse faire. Et de cette façon se développe une vraie éducation, parce que justement l'enfant devient plus intelligent. Et les enfants s'y sont reconnus comme ça, et on comprend que leur mentalité a besoin de s'alimenter et que nous lui faisons souffrir la faim, pourrait-on dire. la femme de l'intelligence. Alors cela doit réveiller toute l'humanité pour aider cet enfant, que c'est l'homme, l'homme futur, qui a besoin d'être plus cultivé qu'aujourd'hui, d'avoir un caractère plus fort qu'aujourd'hui, et d'aider l'humanité à s'adapter à un monde qui a changé.
Le monde a changé. Maria Montessori professait et développait sa pédagogie de la fin du 19e siècle et dans toute la première moitié, le premier 20e siècle. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a donc ce retour en grâce, en vogue, une mode, et même d'aucuns parlent d'adoration et peut-être d'idolâtrie au sujet de Maria Montessori et de sa pédagogie. Là, on entendait dans cette archive une sorte d'inventaire de tous les thèmes centraux de la pédagogie Montessori, que ce soit l'importance de la spontanéité, le rôle de l'adulte qui l'accompagne, l'éducation sensorielle des enfants, l'école perçue comme une maison des enfants et pas comme une caserne, et puis les fins de cet enseignement pour forger un homme futur. On aura l'occasion de parler de politique, d'économie, mais commençons sur les questions pédagogiques, ce qui est central, Alexandre Moureau, et j'ai le sentiment qu'on le perçoit dans votre film, donc Le Maître et l'Enfant, qui sera en salle mercredi, votre film documentaire, c'est l'action. Les enfants sont en action, et on peut dire que vous avez tourné un film d'action dans cette école Montessori de Roubaix, l'école Jeanne d'Arc. Il y a une séquence pour vous emblématique qui cristallise, qui condense la substantifique moelle de la pédagogie Montessori dans votre film?
Alors moi, en tout cas, il y en a une qui m'a bouleversé, que j'ai filmé tout au début du film, qui est en fait cette présentation de Christian Maréchal, là, l'éducateur, à Giraud, un des enfants de la classe. Il lui présente en fait comment on verse en fait du riz d'un pichet dans une autre. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un transvasement, voilà, dans la présentation du transvasement du riz. Et en fait, ça m'a bouleversé parce que j'ai vu chez l'enfant qu'il avait un besoin profond. Il était en fait, Giraud est totalement émerveillé. On sent que ça l'habite totalement cette
un petit garçon ébouriffé aux grands yeux, oui.
Voilà, voilà. Et en fait, il est émerveillé. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose là de très fort, en fait, dans cette pédagogie-là. D'ailleurs, c'est même ce qui m'a donné envie de me former pour mieux la comprendre. Donc, j'ai suivi une formation à la pédagogie Montessori pour essayer de comprendre très profondément cette pédagogie et ce qui se passait en fait dans ce moment-là. Et en fait, tout simplement, c'est vrai que l'enfant a des besoins, en fait, à 3-4 ans, en fait, il a des besoins que finalement on ne perçoit pas très bien. Enfin, moi, je ne percevais pas. En fait, si l'enfant est tellement motivé par ce geste de transvasement, voilà, c'est que ça répond à un besoin très fort intérieur. Et voilà, quand j'ai vu cette illumination là chez Giraud, moi-même ça m'a illuminé et j'ai eu envie de me former, et ça m'a vraiment habité aussi pour faire ce film-là, parce que au départ j'étais un peu hésitant quand j'ai commencé à tourner, et là j'ai vu que c'était quelque chose de très important, et ça remettait en cause mes idées aussi sur l'éducation. Qu'est-ce qu'un enfant vient faire dans une classe maternelle? Eh bien ça, c'est une réponse, en fait. Maria Montessori propose cette réponse-là. Et par rapport à l'action, c'est vrai que Maria Montessori disait souvent qu'en fait, on a l'impression que l'enfant est un être réceptif, mais en fait, non, c'est un être actif, en fait. Il a besoin d'agir. Et donc, effectivement, là, pour le coup, tout ce qu'on propose aux enfants dans une classe Montessori, c'est de la manipulation, en fait, de l'action, évidemment. Voilà.
Patricia Spinelli, je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà vu le film d'Alexandre Moureau. Je rappelle que donc vous êtes directrice de l'Institut supérieur Montessori France. On entendait dans l'archive qu'a choisi pour nous Somanina, la réalisatrice de Rue des Écoles, La Voix de Maria Montessori. J'ai retenu le terme d'action parce que, en effet, le film d'Alexandre Moureau me fait penser à un film d'action, comme Romère d'ailleurs disait qu'il faisait des films d'action. Mais vous, qu'est-ce qui vous retient dans ce qu'on vient d'entendre, ou peut-être dans les extraits des écrits de Maria Montessori qu'on entend dans le film d'Alexandre Moureau, dit par Annie Dupéret?
Alors, c'est pas tout à fait la même chose que l'action que j'ai retenue. Ce qui m'a surprise finalement, c'est qu'elle répète plusieurs fois la construction de l'intelligence. Ça revient très souvent dans ses propos. Je ne connaissais pas cet extrait, cette archive-là. Or, Alors, c'est vrai que la construction de l'intelligence a une place importante à la maison des enfants, mais finalement, ce qu'on recherche plus actuellement, c'est permettre aux enfants de pouvoir se concentrer sur une activité. Vous voyez, parce qu'on va parler peut-être plus de développement psychique, de construction beaucoup plus globale, finalement, que la construction de l'intelligence par elle-même.
Et vous parlez de la concentration, c'est-à-dire qu'on serait aussi dans une réaction où le développement, l'exploration d'une autre voie à une époque où pour les très petits enfants, puisqu'il s'agit notamment des 3-6 ans, oui. il serait temps de leur proposer un peu de se concentrer davantage dans une époque qui les disperse et qui les dissipe.
Non, parce que ce qu'elle revendique comme sa découverte, hein, c'est deux choses. C'est le phénomène de la concentration chez l'enfant. Et ça, c'est ce qu'elle a découvert à la maison des enfants. Vous savez, tout ce qu'elle a établi, finalement, elle l'a établi par l'observation et pas par a priori. C'est-à-dire que Maria Montessori, c'était un psychiatre, c'était un médecin, c'était pas un pédagogue. Et elle est arrivée à la pédagogie par la vie, j'ai envie de dire, par une succession d'expériences qui l'a conduite elle-même à un jour, voilà, prendre en charge des petits enfants de 3-6 ans. Et ce qui l'a un jour tout à fait surpris, c'est de voir se révéler à travers la manipulation d'un matériel. Et c'était, je crois que la première fois qu'elle a observé ce phénomène, c'était un matériel qu'on appelle maintenant de vie pratique, mais là c'était vraiment de la vie quotidienne. C'était un petit garçon qui se lavait les mains. Voilà, elle avait mis des brocs et des cuvettes à la porte de la maison des enfants pour qu'ils se lavent les mains avant d'entrer. Et puis un jour, elle en voit un qui répète son activité une fois, deux fois, trois fois, avec une teneur qui se transformait. Vous voyez, il observait ses mains et ça, elle s'est vraiment interrogée là-dessus. Parce
mais qu'elle... la nécessité, pardon de vous interrompre, oui, non, aujourd'hui, de cette pédagogie et de ce qu'elle a justement de très différente de la pédagogie, qu'on va dire, traditionnelle des écoles maternelles d'aujourd'hui, quelle est-elle, cette nécessité? Parce que se laver les mains, aujourd'hui, on le fait dans toutes les classes, Pasteur est passé par là, et l'enseignement de Maria Montessori sans doute, mais...
Oui, bien sûr, mais voilà, c'est ça la question, c'est que la nécessité de se laver les mains, bien sûr que c'est d'avoir les mains propres dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, on le propose comme une activité pour que l'enfant puisse se concentrer dessus. Vous voyez, c'est pas la finalité première qui est importante, c'est tout ce que l'activité va permettre de construire chez l'enfant. Voilà, intérieurement, sur le plan psychique, sur le plan de la coordination du mouvement, et on sait bien que la finalité du mouvement, c'est quand même la pensée. Et empêcher un enfant de bouger, c'est aussi l'empêcher de penser, à terme.
Paul Devin, ce qu'on entend en particulier autour de cette question de la concentration, c'est l'importance qui est donnée dans les écoles Montessori à la dimension personnelle, individuelle, de l'autonomie laissée à l'enfant et aussi de l'accompagnement. Et on parle volontiers d'une incompatibilité ou d'une différence profonde avec l'école traditionnelle, je ne sais pas comment le dire autrement, l'école républicaine, où il y aurait davantage d'encadrement magistral et collectif dans les activités, que ce soit les activités sportives, artistiques ou d'apprentissage, par exemple de la lecture. Qu'est-ce que vous pensez de la compatibilité ou de l'incompatibilité des méthodes Montessori et traditionnelles à l'heure où l'école publique de plus en plus intègre les éléments de la pédagogie Montessori?
Alors c'est vrai que ce qui est frappant quand on regarde le film d'Alexandre Moreau, c'est effectivement ce sentiment que l'essentiel de l'activité est individuel. C'est pas totalement le cas, puisqu'il y a évidemment des moments de relation entre les élèves et des moments de relation entre l'enseignant, enfin, l'éducateur, je veux dire, pour reprendre les termes de la pédagogie Montessori. C'est évidemment une question extrêmement importante. Parce que l'école, elle se définit depuis très longtemps comme aussi étant le lieu de la construction de compétences sociales. Ces compétences sociales, elles sont effectivement liées à la capacité à rentrer en relation avec d'autres, mais à un moment ou à un autre, elles se heurtent aussi à la question de l'apprentissage des contraintes de cette vie sociale. Alors, il ne s'agit évidemment pas de défendre le modèle d'une école qui serait une école...
Du châtiment.
Du châtiment, de la contrainte physique et du mépris des élèves. Je crois que c'est loin d'être le cas aujourd'hui de l'école actuelle. D'ailleurs, c'est intéressant. Dans votre film, il y a des paroles que vous citez de Maria Montessori qui sont des paroles dont il faut pas oublier qu'elles ont un siècle. Par exemple, quand elle dit que la correction de l'erreur dans l'école, c'est humiliant. Non, ça fait longtemps que dans les écoles publiques françaises, on a appris à réfléchir à la question de l'erreur autrement, pour qu'elle produise seulement l'envie chez l'enseignant d'humilier ses élèves. Non, elle est considérée comme quelque chose qui fait partie de l'apprentissage, qui est une nécessité de l'apprentissage. En fait, quand lorsque j'ai eu fini de regarder votre film, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est qu'en définitive, on s'intéressait pas vraiment à la même chose. Votre film, il s'intéresse à ce qui se passe dans une école. Dans une école dont on est immédiatement frappé tout de même de ses caractéristiques singulières. Du point de vue de la sociologie des élèves, c'est une école qui scolarise des enfants de milieux très favorisés, qui bénéficie d'un certain nombre d'effets éducatifs, si je peux dire, qui sont liés à leurs milieux familiaux. C'est une école aussi où, d'un point de vue matériel, les choses sont extrêmement privilégiées. Je ne sais pas quel est le rapport entre le nombre d'élèves et la surface de la classe de cette école, mais il est largement supérieur à ce que sont beaucoup de classes maternelles publiques. Et puis, le matériel est extrêmement important. Et je me disais, moi en fait, dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement cela. C'est pas tellement de me réjouir qu'on puisse, à un endroit, dans un contexte particulier, produire quelque chose sur lequel on s'émerveille ou pas. Chacun, à la vision du film, aura les réactions qu'il souhaite. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, dans l'ensemble des écoles publiques de ce pays, on peut répondre à cette question très complexe, qui est celle de la démocratisation des apprentissages, la démocratisation des savoirs, c'est-à-dire de permettre à tous les enfants, quels que soient leurs environnements sociaux et familiaux, de réussir.
Alexandre Moreau, est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée parce que vous avez rencontré de nombreux éducateurs et éducatrices spécialisés dans la méthode Montessori pour faire votre film. Vous avez posé vos valises à Roubaix, dans ce beau quartier, en effet, ce quartier chic de Roubaix pour filmer dans l'école de Christian Maréchal, l'école Jeanne d'Arc, institution privée sous contrat, dominicaine, avec une grande salle. Mais ça, c'était aussi pour les besoins du filmage, du film, du tournage, d'avoir de la lumière. Vous êtes posé la question de l'extension ou de la contamination de l'esprit et de la méthode Montessori pour l'ensemble des enfants français?
Oui, bien entendu. Hein. C'est-à-dire que déjà, j'ai fait un tour de France pour découvrir comment... Parce que, en fait, moi, j'ai commencé par lire Maria Montessori et j'ai après interrogé des éducateurs, des différentes personnes qui connaissaient, qui pratiquaient Montessori et j'ai voulu observer dans des classes. Donc, j'ai fait un tour de France et j'ai vu donc plein d'écoles. Donc, déjà, j'ai pu constater que cette pédagogie était disséminée, par tout en France, puisqu'il doit y avoir près de 400 écoles en fait en France. Hein. Donc elle se dissémine évidemment. Et en France, effectivement, voilà, c'est un contexte assez particulier parce que cette pédagogie n'est pas reconnue par l'éducation nationale, en fait, et alors que c'est pas le cas dans d'autres pays. Voilà, par exemple en Hollande, les profs des écoles peuvent choisir de s'orienter en Montessori ou non, et puis l'école en fait propose en fait aux parents librement de rentrer dans une classe Montessori, enfin que leurs enfants rentrent
dans une classe de l'école publique aujourd'hui, voilà. Qui ont adopté les objets pédagogiques, oui. Qui ont adopté l'ellipse au sol pour réunir et pour mener des activités avec les enfants, pour marcher tout simplement. Patricia Spinelli, oui. Vous êtes sensible à ça, et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une perversion du modèle qui est très très classique et très respecté dans le film d'Alexandre Moreau, dans la classe qu'il a filmé.
Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il se passe actuellement plusieurs choses dans les classes de l'éducation nationale. Il y a des classes Montessori, ce qu'on appelle nous des ambiances, c'est-à-dire des classes Montessori à proprement parler, avec toutes les caractéristiques d'une ambiance Montessori à l'éducation nationale. Je forme de plus en plus, nous formons à l'Institut de plus en plus de professeurs des écoles qui se payent leur formation, c'est très cher, qui passent pendant 2 années toutes leurs vacances avec nous, puisque c'est sur des cours d'été, des temps de vacances, et qu'ils retournent. Vous voyez, il y a 10 ans, ces professeurs-là quittaient l'éducation nationale. Aujourd'hui, ils retournent tous dans l'éducation nationale et ils essaient de structurer des ambiances Montessori. Alors, leur difficulté, c'est d'avoir les 3 groupes d'âge et ensemble.
Qui sont ensemble, voilà,
oui,
dans les mêmes
et
classes.
Ça, c'est leur première difficulté. Et leur deuxième difficulté, c'est d'acheter le matériel. Voilà. Mais ils se structurent, ils y arrivent. Voilà. Ça, c'est un aspect de la pédagogie Montessori à l'éducation nationale et c'est formidable. Après, il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect où les professeurs sont très en demande d'outils, sont très en demande de moyens pour essayer de travailler mieux. Parce que ils sont confrontés à des difficultés dans leur classe, ils ont le sentiment de ne pas aider les enfants comme ils le souhaiteraient. Alors on en voit beaucoup dans des petites formations, beaucoup vont dans d'autres formations, ils essaient de grappiller quelques outils qu'ils essaient de mettre en place ou en scène dans leur classe. Alors c'est pas parce qu'on a un petit plateau ici et là que ça va faire une ambiance Montessori.
Alors, à propos de cette ambiance, avant de revenir et d'approfondir cette question des moyens et des enjeux économiques aussi pour l'école, qu'elle soit privée ou publique, et les parents des enfants ou des élèves, je vous propose de plonger dans l'ambiance Montessori avec un extrait du Maître et l'enfant, le film d'Alexandre Moreau.
Non, et j'en ai déjà une. De maman, maison. Escargot. Non. C'est pas escargot. C'est trop petit pour les lettres. Je pars un peu. C'est toujours content, le soleil est très étonné.
Le Maître et l'Enfant, donc extrait du film d'Alexandre Moreau, qui sera en salle mercredi 27 septembre. C'est le jour où on peut aller au cinéma avec ses enfants, c'est formidable. On entend des enfants de différents âges, justement réunis dans cette classe Montessori, cette maison des enfants, par leur autour de leur professeur, de leur éducateur, Christian Maréchal, qui s'entraide à découvrir les joies de la lecture. On est avec Géraud, avec Garance, avec Sixtine, avec Victorien. Les prénoms nous disent en effet la catégorie sociale de la plupart d'entre eux, sans doute. À l'instant, Paul Devin, Patricia Spinelli évoquait le coût de la formation qui, pour les enseignants du public, peut être très cher pour apprendre la méthode Montessori et pouvoir l'utiliser au quotidien dans les écoles publiques, maternelles et peut-être primaires. Ce sont aujourd'hui essentiellement ces écoles Montessori, des écoles privées qui sont assez chères. C'est quoi d'ailleurs en moyenne le prix d'une année d'enseignement dans une école Montessori, Patricia Spinelli?
Écoutez, je pense que ça oscille en province autour de 4 000 euros par an, 3 000-4 000 euros par an, et ça peut monter à Paris jusqu'à 10 000, je pense.
Et alors Paul Devin, eu égard au prix que représentent ces études, parce qu'il faut acheter le matériel, parce qu'il faut former les enseignants, les éducatrices et les éducateurs donc, qu'est-ce que vous envisagez, comment vous percevez en tout cas l'offensive, la pénétration de cette méthode d'enseignement dans l'école publique, si on reste dans l'école publique?
Après, il y a un principe dans l'école publique française, c'est que il y a une définition des programmes, des contenus d'enseignement, mais il n'y a pas de définition des méthodes. C'est-à-dire que la méthode, elle appartient au choix de chaque enseignant. Ce que fait l'inspecteur, par exemple, lorsqu'il vient dans une classe...
Je rappelle que vous êtes inspecteur.
Ouais, ce que donc j'ai fait pendant longtemps, notamment en Seine-Saint-Denis, dans un endroit où ça va être difficile de trouver des familles qui vont pouvoir payer des scolarités, même pour les moins chères de celles que vous avez énoncées. Mais ce qu'on fait, c'est d'aider l'enseignant à réfléchir si les méthodes qu'il met en œuvre, si les activités, si le travail didactique qui conduit les activités qu'il propose aux élèves, de le faire réfléchir sur, à savoir, est-ce qu'il produit les résultats qui sont escomptés.
Vous parlez d'ailleurs d'imposture des résultats scientifiquement prouvés de Céline Alvarez et pas de l'ensemble des écoles Montessori. Donc cette enseignante qui a expérimenté dans le public à Gennevilliers avec des moyens assez favorables, assez privilégiés, dans des conditions privilégiées, la pédagogie Montessori.
Alors oui, là je ne parle que de Céline Alvarez, ou plus exactement même que du discours de Céline Alvarez. Qu'est-ce qu'a dit Céline Alvarez? Elle a dit donc grâce à l'aide de celui qui à l'époque ne savait probablement pas encore qu'il deviendrait ministre, mais qu'il l'est aujourd'hui.
Jean-Michel Blanquer, donc.
Voilà. Elle a dit, moi je vais faire la preuve que, en fait, le problème de l'école française, c'est un problème de méthode. Donc, je vais faire la preuve que dans un quartier populaire, on met en œuvre une méthode Montessori, et c'est gagné. Et lorsque des journalistes commencent à s'intéresser à son travail, elle dit, elle répète que tous les résultats exceptionnels de ses élèves sont prouvés par une recherche du CNRS de Grenoble. C'est sa grande expression, une recherche du CNRS de Grenoble. Toute la presse a donné un écho favorable à l'expérience Alvarez, uniquement en accréditant cette idée que la preuve était faite qu'en fait, le problème de l'école française, c'était bien un problème de méthode. Sauf que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les élèves qui ont passé quelques années dans l'école de Céline Alvarez, aujourd'hui, ne sont pas des élèves qui se distinguent de manière radicale de leurs camarades qui ne l'ont pas été dans leur parcours scolaire. Alors, on pourra revenir sans doute sur les raisons de cela, mais voilà pourquoi j'ai parlé, par rapport à Céline Alvarez, d'imposture. L'imposture, c'est d'avoir raconté qu'il y avait une preuve scientifique d'un résultat exceptionnel sur les élèves, c'est faux.
Mais il y a quelque chose de très important quand on parle de science et de preuves scientifiques, c'est l'importance de la science dans le discours, dans l'intuition de Maria Montessori, Patricia Spinelli, parce que Maria Montessori, vous le rappeliez, anthropologue, au départ médecin, une des premières femmes médecins en Italie dès la fin du 19e siècle, donc une scientifique qui s'est ensuite formée à la biologie, qui utilise des objets pédagogiques qui sont des objets scientifiques, donc une importance très grande de la science dans son approche, dans sa pédagogie. Est-ce qu'on a aujourd'hui la même exigence quand il s'agit d'évaluer justement les résultats d'un point de vue scientifique de ces écoles et de cette pédagogie?
Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'évaluations scientifiques qui sont faites. Hein. Alors, il y a quand même une recherche qui a été faite à Grenoble par Édouard Gentaz, en 2005. Il a publié en 2005 « On apprend mieux les lettres en les touchant ». Voyez, c'est-à-dire, voilà, moi c'est la seule recherche scientifique officielle que je connaisse qui ait été faite à partir du matériel, les lettres rugueuses. Hein. Après Maria Montessori, c'est vrai qu'elle-même a fait une expérience scientifique à San Lorenzo avec les enfants.
C'est-à-dire quartier populaire de Rome, voilà, en 1907.
Hein, voilà. Et elle, c'est-à-dire qu'elle est partie du matériel d'Édouard Seguin, matériel sensoriel d'Édouard Seguin, avec lequel elle avait travaillé avec les enfants déficients. Et elle s'est dit, on va voir ce que ça donne avec les enfants petits. Et quand ce phénomène de l'attention s'est révélé, eh bien, elle a fait étalonner le matériel de Seguin, et c'est devenu le matériel Montessori. Vous voyez, la bifurcation Seguin-Montessori est là. Elle l'a fait étalonner par rapport au phénomène de l'attention. C'est-à-dire qu'elle a demandé aux fabricants qui construisent différents types de matériel, différentes grandeurs, grosseurs, couleurs, etc. Elle l'a donné à manipuler aux enfants et elle a observé quelle était la forme, la dimension, etc. qui suscitait le maximum d'attention chez l'enfant. Et c'est devenu le matériel sensoriel Montessori.
Alexandre Moreau, ce matériel sensoriel Montessori, il est au cœur de la manipulation des enfants dans votre film Le Maître et l'Enfant, donc dans cette classe qui a quelque chose de très canal historique dans la version Montessori qui est proposée, donc c'est à Roubaix. Et justement, on a l'impression qu'on remonte dans le temps avec des enfants en blouse, avec des petits pichets, des petits bros, du matériel comme dans les classes qu'on imagine de l'époque, je sais pas, de Pagnol par exemple, pour ce côté-ci de la frontière. Vous avez l'impression de faire un film historique ou de faire un film de science-fiction, puisqu'on parle de science, qui annoncerait un futur, un avenir possible pour l'éducation?
C'est-à-dire que effectivement, le matériel, il y a beaucoup de matériel qui n'a pas changé, en fait, hein, parce qu'elle a, ses expérimentations scientifiques à Maria Montessori, effectivement, ont mis en valeur, un certain type de matériel, et donc ce matériel, effectivement, est toujours là depuis presque un siècle. Sauf qu'effectivement, il s'est enrichi. Je pense que Patricia Spinelli pourrait en parler. Il y a du matériel. Enfin voilà, on a rajouté des choses.
L'éducateur a même une tablette tactile.
Voilà. Non, on a rajouté effectivement des choses, mais effectivement, on se rend compte que l'enfant à 3 ans, il a son projet justement, c'est de se construire lui-même, c'est de développer sa motricité, de développer sa concentration. On voit qu'il a un grand plaisir quand Géraud coupe pendant plus de 20 minutes, effectivement, fait un exercice de couper là, sur des lignes. Voilà, donc en fait, Tout ça, en fait, on se rend compte que l'enfant, voilà, il est passionné par l'exactitude. Il a envie de faire des tâches exactes. C'est pour ça que Mme Montessori, par exemple, avait découvert que les enfants qui marchaient le long de la ligne, c'était une activité, elle qualifiait ça de travail, parce que l'enfant se construit, en fait. L'enfant a besoin de ça pour se construire. Et en fait, toutes ces activités-là, finalement, sont des activités simples. Et le matériel qui est proposé dans les ambiances Montessori, c'est du matériel effectivement relativement simple et adapté aux besoins de l'enfant. Donc, on a installé une ligne sur le sol de la classe, en fait, où l'enfant peut circuler comme ça, faire des exercices de coordination motrice comme en fait un enfant peut le faire spontanément en marchant le long du trottoir. Donc en fait toutes ces activités là, tout ce matériel en fait, ce sont des activités qui répondent aux besoins de l'enfant et qui sont les besoins des enfants du début du XXe siècle sont à peu près les mêmes quoi. Je veux dire voilà, tous ces besoins de concentration, de coordination motrice, d'exploration sensorielle, ça on voit que ça fonctionne. Enfin le film atteste quand même que les enfants sont heureux, travaillent. Et donc, il y a un fonctionnement qui marche, quoi. Ça marche. Quoi.
Et apprennent.
Et apprennent, oui, bien sûr.
Et vous allez en apprendre encore tout de suite, puisque nous sommes au début du 21e siècle. Elle est très concentrée depuis le début de cette émission, et elle marche presque au bord de notre table, qui a quelque chose de l'ellipse, la table du studio, dans une classe Montessori. C'est Marie-Caroline Missire pour le Journal de l'Éducation. Marie-Caroline, si dans les classes Montessori, on essaye d'évacuer et d'aplanir les obstacles, vous nous proposez de commencer ce journal avec un loupé magistral.
Oui, en communication des années 2010, on appelle cela un fail, une erreur en somme. Pour promouvoir ses propositions pour l'école, le MEDEF, le syndicat des patrons, a investi cette semaine les réseaux sociaux avec une campagne tellement décalée qu'elle confine au mauvais goût. « Si l'école faisait son travail, j'aurais du travail », pouvait-on lire en guise de slogan sur ces mêmes réseaux. Le message est assez limpide, les enseignants et l'éducation nationale sont donc responsables du chômage des jeunes. Fort heureusement, la mécanique virale peut aussi avoir des effets inattendus, voire positifs, puisque devant le tollé provoqué par cette campagne chez les profs, mais dans l'opinion dans son ensemble, le ministre Jean-Michel Blanquer a tweeté son indignation « Je suis consterné par le slogan du MEDEF » et lui demande un retrait immédiat. La réponse et les excuses de Pierre Gattaz, le président du MEDEF, en vidéo s'il vous plaît, et toujours sur Twitter, n'a pas tardé. Bref, un cas d'école de communication virale raté au profit d'une communication ministérielle réussie, elle.
Oui, on a même trouvé une ancienne présidente du MEDEF, Laurence Parisot, pour critiquer cette méthode, pour le coup, cette méthode de communication. Mercredi, si on est toujours voilà à la pointe de l'actualité avec vous, Marie-Caroline, l'AFEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville, tenait, elle, sa journée nationale du refus de l'échec scolaire.
Et à cette occasion, comme chaque année, l'association publie une enquête sur la perception du climat scolaire par les collégiens des réseaux d'éducation prioritaire. Cette notion de climat scolaire dépasse largement celle de l'ambiance et de l'atmosphère d'un établissement et elle s'étend plus globalement aux conditions d'apprentissage, à la discipline, aux relations avec les adultes et aux relations entre enfants. Le climat scolaire, c'est un peu le système nerveux central d'un établissement et à retenir de cette étude fort intéressante, l'immense majorité des collégiens se sentent à l'aise dans leur établissement, il faut le noter, plus de 90%. Les collégiens se sentent aussi plus en sécurité à l'école que dans leur quartier ou même qu'aux abords de l'établissement. Deux points noir. Cependant, la moitié des élèves interrogés dans cette enquête racontent avoir été témoins de scènes de violence ou de cruauté entre élèves. 2 élèves sur 5 rapportent également avoir déjà été la cible d'insultes et 1 sur 5 de violences physiques. Mais seul 1 élève sur 2 en a parlé à un adulte.
Oui, ça commence parfois même avant le collège. On se souvient d'un autre film documentaire, celui de Claire Simon, Récréation, où il y avait de la cruauté dès le plus jeune âge. Alors suite, Marie-Caroline, de votre feuilleton APB du dimanche soir, le tirage au sort à l'entrée de l'université a été jugé illégal par la justice.
Et c'est un scoop d'EducPro, le site spécialisé sur l'enseignement supérieur du groupe L'Étudiant que j'ai l'honneur de représenter. Le tirage au sort opéré à l'entrée des licences en tension, vous savez, les licences de STAPS, de droit, a été jugé illégal par le tribunal administratif de Bordeaux jeudi. La juge a enjoint le recteur de l'académie de Bordeaux je cite, de faire procéder à titre provisoire à l'inscription de ces 3 étudiants en première année de licence STAPS. Et dans un délai de 8 jours, s'il vous plaît. Ces 3 étudiants s'étaient donc vus refuser l'entrée en première année de licence faute de place dans la filière. Et vendredi, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a formé un pourvoi devant le Conseil d'État. À suivre.
Alors Marie-Caroline, on parlait de l'évaluation scientifique de la méthode et des écoles Montessori. Et c'est cette semaine qu'ont démarré les évaluations des élèves de CP et de 6e, l'une des nouveautés de la rentrée dans l'enseignement public.
Et c'est en effet le grand retour de ces évaluations nationales que le même Jean-Michel Blanquer avait instauré lorsqu'il était directeur général de l'enseignement scolaire, mais que Vincent Peillon, ministre de l'Éducation de François Hollande, avait supprimé, si vous me suivez toujours. Mais avec le rétablissement de ces évaluations, c'est aussi le retour des critiques et des débats autour de l'évaluation dans le système éducatif. Un système bien curieux, où la note a valeur normative, où l'examen final sanctionne les parcours scolaires, où le concours, très sélectif, reste la voie privilégiée de recrutement des enseignants, mais où l'idée d'une évaluation organisée et nationale, qu'elle concerne les élèves ou les enseignants d'ailleurs, dérange. La FCPE, l'association de parents, s'insurge ainsi contre un risque de tri des élèves. Le SNUIPP, le syndicat du premier degré de la FSU, alerte sur le stress des enfants, notamment en CP, et sur l'impréparation de ces évaluations. L'évaluation pose pourtant une question simple. Que savent les élèves? Où en sont-ils de leurs apprentissages? Ces évaluations ont valeur de photographie des compétences des enfants à un instant T, en l'occurrence en début d'année. Et je voulais vous rappeler qu'en 2005, un rapport d'inspection coordonné par l'inspecteur Roger-François Gauthier soulignait à quel point l'éducation nationale était en partie incapable de répondre à cette question des acquis des élèves, malgré les outils et les administrations dont elle dispose, des inspections générales au Haut Conseil divers de l'éducation. La question de l'évaluation dans l'éducation nationale fonctionne ainsi comme un révélateur d'une forme de résistance au changement qui fait obstacle à une adaptation, une personnalisation des enseignements et des pédagogies en fonction des élèves et à un pilotage de l'éducation nationale au service des progrès de ces mêmes enfants.
Merci Marie-Caroline. Votre journal de l'éducation était donc présenté en partenariat avec le magazine L'Étudiant. Stranger Education, c'est le choix éditorial et musical de Somanina, la réalisatrice de Rue des Écoles. Les cinématiques pour poursuivre notre conversation, discussion sur cette école, cette méthode étrange qui est donc la méthode Montessori, qui est en vedette à partir de mercredi prochain sur les grands écrans, dans les salles obscures et les salles de classe lumineuses un peu partout en France. C'est Le Maître et l'Enfant, votre film, Alexandre Moureau, à vos côtés dans notre studio de Rue des Écoles sur France Culture, Patricia Spinelli et toujours Paul Devin, inspecteur de l'éducation nationale. À propos de cette Stranger Education, c'est une méthode qui nous vient d'Italie, qui a été forgé donc par Maria Montessori au début du XXe siècle, au tournant du XXe siècle. On a pu évoquer tout le bien que pensait Benito Mussolini et qui a essayé d'embrigader Maria Montessori, qui ne l'a pas laissé faire et qui a laissé ses enfants en blouse ne pas revêtir l'uniforme des chemises brunes italiennes. Mais quel est le projet politique, Paul Devin, selon vous, à l'œuvre? Parce que j'ai l'impression que pour vous, l'inspecteur syndicaliste au FSU, donc homme de gauche, eh bien, vous partagez des idées qui sont défendues aujourd'hui sur le site causeur.fr, qui est pas très réputé de gauche, plutôt de droite et réac pour certains, où il y avait une tribune assez violente disant que l'école Montessori était la fabrique du crétin libéral. Et il semble que vous, sur votre blog chez Mediapart, vous partagiez peut-être certaines de ces conclusions avec voilà l'idée que l'école Montessori pourrait servir perverti au tempora homores, de cheval de Troie pour des idées ultralibérales de marchandisation de l'école.
Alors j'espère que vous avez quand même perçu, je suis sûr que vous avez perçu une petite différence entre ce que j'écris dans mon blog et ce qui est écrit dans Causeur.
Vous ne parlez pas des gens qui pensent différemment de crétins.
Par exemple, je ne suis pas de ceux qui considèrent que l'école d'aujourd'hui fabrique des crétins. Et justement, je suis loin de partager ce discours qui est tenu aujourd'hui sur l'école et qui l'accuse d'être devenu incapable de transmettre des savoirs. Je crois que c'est vraiment loin d'être le cas. Mais puisque vous m'interrogez sur cette question d'un point de vue, on va dire, économique, politique et économique. Bon, il y a plusieurs choses. On ne peut pas expliquer le phénomène Montessori avec un seul facteur. Mais il y a quand même des choses qui sont de cet ordre. Aujourd'hui, quand on regarde le succès des écoles Montessori sur Paris, on est bien obligé de constater que ce succès, il est lié à l'attirance d'une classe sociale particulière pour la pédagogie Montessori. On peut donc s'interroger pour savoir si, en définitive, ces écoles ne proposeraient pas à un certain nombre de cadres qui, dans le fond, ont envie de faire le choix d'une école de l'entre-soi, mais qui ont de la difficulté à pouvoir le dire, parce qu'ils ont aussi des valeurs qui mettent en contradiction cette volonté de l'entre-soi, mais aussi un projet de société qu'ils ont, qui n'est pas forcément un projet de société fondamentalement ségrégatif. Or, les écoles Montessori leur proposent quelque chose de formidable pour eux, qui leur permet de régler cette tension. Ils nous expliquent que c'est pour des raisons pédagogiques qu'ils font ce choix. Et en définitive, ils satisfont en même temps ce désir de l'entre-soi. Parce que quand on regarde quand même ce qui se passe dans le quotidien d'une école Montessori, il y a beaucoup de choses qui sont communes à ce qui se passe dans une classe ordinaire. Quand je dis ordinaire, je veux dire une classe d'une école publique. Pourquoi ? Parce que ce qui est malheureusement aujourd'hui la manière avec laquelle est défendue la pédagogie Montessori, c'est quelque chose qui le fait en opposition à la dégradation de l'école publique actuelle. Très souvent, je ne dis pas que tout le monde l'argumente comme ça, mais très souvent c'est ça l'argumentation qui est utilisée. Or, si on regarde bien ce qui se passe dans les écoles maternelles aujourd'hui, il y a, par exemple, la patience d'attendre qu'un enfant devienne capable de faire quelque chose. Mais ça fait des années que c'est quelque chose qui est enseigné aux enseignants dans les dispositifs de formation publique. Il y a quelques années à l'IUFM, aujourd'hui dans les ESPE. C'est quelque chose sur lequel, évidemment, les enseignants sont amenés à réfléchir. La question de l'expérimentation, la question de dire qu'il y a quelque chose qui, chez un jeune enfant, nécessite une activité. Ça fait très longtemps qu'il y a des travaux de didactique et de pédagogie là-dessus. Sauf que, il y a une question que la pédagogie Montessori pose peu, en tout cas. C'est, est-ce qu'on est si sûr que ça, que parce qu'un enfant agit, qu'il va apprendre? Et pour avoir passé beaucoup de temps, y compris dans une période de ma vie où j'étais formateur, auprès d'enseignants qui intervenaient, vis-à-vis d'élèves qui avaient des difficultés particulières, ce qu'on est obligé de constater, c'est qu'en définitive, il ne suffit pas de mettre l'élève en activité dans un milieu si riche soit-il, pour qu'il puisse forcément apprendre. Il y a des choses qui font résistance. Et c'est là certainement qu'on a les écarts majeurs avec la vision qui est défendue par la pédagogie Montessori sur la question du rôle de l'adulte. Moi, je pense que les choses ne s'opposent pas entre un adulte qui reste très à distance et un adulte qui fait à la place. Non, entre les deux, il y a un adulte qui a réfléchi à des dispositifs didactiques qui permettent d'aider, qui permettent d'accompagner, sans faire à la place, tout en gardant cette patience nécessaire de l'évolution de l'enfant, et une patience qui, évidemment, qui doit prendre en compte les différences interindividuelles des enfants. Il faut faire très attention à l'image caricaturale qu'on donne de l'école aujourd'hui. Moi, je fais partie des gens qui ne disent pas « tout est formidable, on réussit tout ce qu'on devrait réussir à faire aujourd'hui ». Non, mais tout de même, il faut bien considérer l'école telle qu'elle est aujourd'hui. L'école qu'elle est aujourd'hui, ce n'est plus celle que Maria Montessori a critiquée il y a maintenant plus d'un siècle, comme ce n'est plus celle non plus contre laquelle Freinet a développé sa pédagogie quelques années plus tard.
Patricia Spinelli, on l'entend, je le lance sur la question politique, question évidemment brûlante et délicate, Paul Devin, et il revient à la question pédagogique pour dire finalement la fraternité est ce qui réunit, ce qui rassemble, ce qui fait se rejoindre les pédagogies, que ce soit la pédagogie Montessori ou celle qu'on trouve aujourd'hui, vraiment aujourd'hui au présent dans les écoles publiques, mais sur ces questions politiques avec vous, donc qui est directrice de l'Institut supérieur Montessori France, Patricia Spinelli, comment est-ce que vous prenez le soutien de Jean-Michel Blanquer, donc nouveau ministre de l'Éducation, le soutien de l'Institut Montaigne, par exemple, qui favorise l'entrée de cette méthode, leur développement dans des écoles privées, puis l'entrée de ces méthodes dans l'école publique, et qui sait peut-être le marché des objets Montessori pour tout un chacun. Vous êtes attentive à la dimension politique et au soutien politique très, très important aujourd'hui ?
Évidemment qu'on est tout à fait attentive à ça. Et puis, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on puisse ouvrir les formations à la pédagogie Montessori. Vous voyez ?
L'enjeu, c'est pour vous, une institution privée, de pouvoir notamment former, contribuer à la formation ?
Des maîtres, bien évidemment, des professeurs des écoles. Vous voyez ? Qu'on passe convention avec l'éducation nationale. Qu'est-ce que je serais contente ? Alors, peut-être, j'en profite pour le dire, notre certification, puisque c'est comme ça qu'on doit l'appeler, notre certification vient d'être inscrite au répertoire national de la certification professionnelle. Voilà, c'est un dossier sur lequel on a travaillé quelques années, mais nous y sommes arrivés, je crois que c'est tout frais, puisque c'est passé en commission le 15 septembre. Donc je me réjouis de ça, parce que c'est déjà quand même une forme de reconnaissance aussi, d'inscrire cette certification au répertoire, et nous allons continuer dans ce sens, mais... Alors, en même temps, vous savez, je suis assez sensible à l'analyse de Monsieur Devin sur la population qui fréquente les écoles Montessori, parce que je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement, hein, dans tout ce qui se passe actuellement autour, vous voyez, hein, de cet engouement pour l'école Montessori, parce qu'on s'aperçoit, lorsque l'on fait un peu le tour des écoles et qu'on parle avec les directeurs d'école, qu'un certain nombre de familles ne savent pas très bien où ils mettent leurs enfants. Vous voyez, n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est profondément la pédagogie Montessori. Alors il y a plusieurs facteurs qui attirent. Il y a, je pense, quelque chose de l'entre-soi, hein, je le pense aussi. Il y a quelque chose de la proximité, de petite école à proximité. Il y a quelque chose du bilinguisme aussi, hein, puisque beaucoup d'écoles, et ça c'est vraiment un phénomène, j'ai envie de dire, de mode actuellement en France, parce que c'est pas du tout un critère d'une école Montessori, le bilinguisme, mais presque toutes s'ouvrent bilingues. C'est des écoles bilingues, français-anglais en général, et ça attire aussi un certain nombre de parents. Oui.
Alexandre Moreau.
Juste une petite chose, effectivement, je pense que ça, c'est pas spécifique à Montessori. C'est-à-dire qu'il y a plein d'écoles privées voilà, en France et à Paris en particulier. Oui. Je veux dire, c'est vraiment le lieu de l'entre-soi parfait. Mmh. C'est vraiment, à mon sens, ça n'est pas, on ne peut pas faire cette critique-là à Montessori. On peut le faire aux écoles privées.
Voilà. Oui.
Non, mais comment c'était là-dessus. Oui.
En quelques mots, Paul Devin, puisque vous réagissiez, vous agitiez très concentré pourtant sur ce que disait Patricia Spinelli et la façon d'un enfant dans une maison d'enfants Montessori. Quelques mots sur les mots qu'emploie Patricia Spinelli qui sont voilà, la présence de formateurs privés pour les enseignants du public et puis l'importance aussi cet entre-soi que vous reconnaissez et qui est de plus en plus en train de devenir la norme dans les stratégies, je dirais, scolaires des parents, d'élèves ou d'enfants français.
Alors oui, donc deux choses. Tout d'abord, la question du bilinguisme montre bien qu'on est dans un marché. Hein, qu'on est arrivé dans un marché de l'offre scolaire et que donc ce marché, il va être davantage déterminé par comment on fait pour conquérir une nouvelle clientèle que par des raisons qui sont des raisons de choix fondamentaux, sur la question du bilinguisme par exemple. Sur la question de la formation, je crois que c'est probablement aujourd'hui la velléité libérale la plus forte dans le domaine de l'éducation. Il y a quelque chose qui financièrement est énorme. Le marché de la formation des enseignants est quelque chose d'énorme.
Fini les années d'études, les concours, mais des contractuels formés
alors,
dans le privé.
Alors, il y a très certainement cet arrière-plan hein, qui est là, celui de remettre en cause la manière avec laquelle la fonction publique fonctionne avec des fonctionnaires, etc. Mais il y a autre chose derrière. Les questions qu'il faut poser par rapport à ça, tout d'abord, c'est celle de réfléchir si est-ce qu'on est sûr que dans un marché de la formation des enseignants privés, les valeurs de la République continueront à être au cœur de la formation donnée aux enseignants. Est-ce qu'on en est sûr ? Est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à un certain nombre de choses qui deviendront extrêmement compliquées à gérer ? Parce que si le marché est intéressant d'un point de vue financier, il intéressera d'autres d'un point de vue idéologique aussi. Et il suffit de regarder ce qui se passe autour des écoles Espérance Banlieue, par exemple, et de ces autres écoles catholiques ultra-réactionnaires par rapport à ça. Et puis, il y a une deuxième chose qui sera la réalité. Aujourd'hui, nous le savons, nous le disons très clairement, par exemple, nous, syndicalement, une des grandes erreurs des politiques depuis un certain nombre d'années, c'est de refuser d'investir fortement dans la formation des enseignants. Si nous voulons une école de qualité, Il y a besoin de lui donner des moyens de formation et il faut, même si évidemment ça ira pas dans le sens de la réduction de la dépense publique, il faut investir pour l'école. C'est à long terme en fait une économie. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si notre gouvernement, enfin notre gouvernement ou les suivants, céderont à la pression des marchés. Et s'ils le font, les risques, tant d'un point de vue idéologique, comme je le disais tout à l'heure, que d'un point de vue qualitatif, parce qu'une formation qui est mise sur le marché, à un moment donné, ça doit aussi répondre à des règles de marché qui sont celles de l'économie, du mieux offrant, etc.
Alors on l'entend, partant d'une belle et petite salle de classe à Roubaix, on arrive à des enjeux politiques, à des enjeux économiques qui engagent l'ensemble de la société française et évidemment ses voisins aujourd'hui, en particulier en Europe et dans le monde occidental. Mais j'aimerais qu'on retourne, pour terminer cette émission avec vous Alexandre Moureau, dans cette classe de Roubaix, dans votre film Le Maître et l'Enfant, donc en salle à partir de mercredi, et qu'on reste peut-être sur des questions politiques. Est-ce qu'il y a une séquence, une scène qui avait une valeur politique au sens le plus noble du terme et qui pour vous voilà donne toute la saveur et toute l'importance de cette méthode Montessori qui vous a tant plu au point de lui consacrer votre film?
Ce que je trouve spectaculaire en fait, Maman Montessori disait j'ai pas découvert de méthode, j'ai découvert l'enfant, au plus ai-je été l'interprète de l'enfant. Et en fait quand on laisse l'enfant libre d'agir comme ça dans cet environnement assez très structuré, hein, voilà, quand on découvre plein de choses et on découvre effectivement que les enfants ont plein de capacités spontanées. Donc je trouve que déjà là il y a au niveau presque politique effectivement, on se rend compte que l'enfant sait faire beaucoup de choses, qu'on a intérêt à l'observer, à regarder ce qu'il est capable de faire seul et qu'est-ce qu'il a à nous apprendre en fait nous. Et l'enfant c'est l'avenir de l'humanité, comme disait Maria Montessori évidemment et comme tout le monde peut évidemment le penser. Mais seulement effectivement elle en a fait son credo, que il fallait, elle a abordé l'enfant en fait son livre le plus connu par la question sociale de l'enfant. Donc c'était un enjeu très important de réhabiliter en fait l'enfant dans la société. Et donc dans la classe, moi ce que j'ai pu voir c'est effectivement toutes ces scènes de où finalement l'enfant donc fait des choses par lui-même, travaille par lui-même, se concentre, on se sent qu'il se construit comme ça, de manière avec une volonté, un souci d'auto-perfection. Voilà, c'est ça que je trouve extraordinaire. Et ce que je trouve extraordinaire, donc, au niveau social, c'est toute cette socialisation qu'il y a. Donc, les enfants qui s'entraident, qui coopèrent, qui s'enseignent les autres, les uns les autres. Donc, il me semble que ça, c'est des belles promesses, en fait, pour justement la société de demain. Quoi. Voilà.
Merci. Alexandre Moureau, je rappelle donc que Le Maître et l'Enfant, c'est votre film. Il est en salle à partir de mercredi. Patricia Spinelli, non contente donc de diriger l'Institut supérieur Montessori France, vous êtes l'auteur d'Un autre regard sur l'enfant, publié chez Desclés Brouwer, et vous participez au documentaire Une vie, une œuvre, Maria Montessori, qui est disponible sur le site de France Culture depuis le début du mois de septembre. Et Paul Devin, je rappelle qu'on peut lire vos posts, vos billets sur votre blog, sur le site de Mediapart. Mais avant de se quitter, une petite leçon de choses, celle de la reporter de Rue des Écoles, Sophie Bobert, qui nous invite dans un hara, le hara de la Sens, à la rencontre de l'acteur Thierry Lhermitte, rendu dingue, selon ses propres termes, dingue d'éthologie, autrement dit, de crains et de chuchotements.
On est au hara de la Sens pendant les journées éthologiques. Le hara de la Sens, c'est un hara, comme son nom l'indique, qui est également une sorte de formation à l'équitation en général et l'équitation éthologique en particulier. Et aujourd'hui, chaque année en septembre, il y a 3 jours de porte ouverte avec des forums, des débats, des démonstrations.
Des démonstrations, on en voit ici sur la gauche.
Carrière, hein. Voilà, il y a une carrière là où il y a en ce moment des spectateurs qui regardent une démonstration de cavaliers très talentueux.
Vous en avez un, vous, ici, de cheval?
Oui, j'ai un cheval ici et je fais une démonstration tout à l'heure.
Il s'appelle comment, votre cheval, Thierry Lhermitte?
Upton de Cresquer.
Upton, ouais. On va re-rentrer, ouais. se mettre à l'abri parce qu'il pleut à verse. Upton, c'est une très belle histoire.
J'ai rencontré ce cheval qui avait échappé à l'euthanasie, un cheval d'un grand élevage de sport, qui avait un comportement ingérable. Malgré des débourrages. Le débourrage, c'est quand on apprend le cheval à supporter un cavalier une selle sur le dos. Les gens ne voulaient plus s'en occuper parce que il était trop dangereux, trop ingérable. Et un vétérinaire qui a été appelé pour l'euthanasier le trouvait tellement beau qu'il a dit maintenant, non, moi je le prends. Donc on lui a donné. Et donc je me suis occupé de ce cheval dont j'ai fait un peu l'éducation. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis après, pour le stade d'après, je l'ai confié à Manu Godin, au Haras de la Sens. Et maintenant, ce cheval, qui a quelques années de plus, je ne me rappelle plus, je pense qu'il a 8 ans maintenant, il fait des compétitions. Et avec un, disons, un tempérament toujours extrêmement sensible et fragile, et il est manipulable par tout le monde et il est monté par tous les étudiants. Et voilà, c'est une belle histoire.
Mais pour vous, Thierry Lhermitte, comment est-ce que ça s'est passé au départ? Je veux dire, comment est née cette passion pour le cheval? Qu'est-ce qu'elle répare? Est-ce qu'on peut parler d'obsession?
C'est devenu une obsession à un moment. En fait, j'ai monté à cheval depuis que j'étais petit, puis j'ai arrêté pendant un temps. Je montais régulièrement, mais comme ça, en promenade. Et puis, je m'y suis remis il y a une vingtaine d'années. Et grâce à des amis de mon confrère de cheval pratique, j'ai été amené à découvrir l'équitation éthologique. C'est une science scientifique qui s'enseigne à l'université, qui s'apprend à l'université, qui consiste à étudier le comportement des êtres vivants. Donc là, on parle d'une autre éducation des chevaux, voilà. Moi, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a rendu absolument dingue. Je me suis dit, je veux apprendre ça, je veux savoir ça, parce que, comme tous les cavaliers, je me dis, mais pourquoi mon cheval veut pas faire ça? Pourquoi il a peur de ça? Comment je peux réparer ça? J'avais pas la moindre idée.
Et est-ce que vous vous percevez, est-ce que vous qualifiez vous-même d'éthologue aujourd'hui?
Moi, j'ai fait le brevet d'équitation éthologique, qui est le diplôme qui me permet d'enseigner cette discipline. Voilà.
C'est difficile.
C'est pas facile. Une fois qu'on sait pratiquer, on a déjà fait une partie du chemin, puis ensuite il faut savoir l'enseigner. Et j'ai découvert que c'était pas si facile. Mais maintenant j'ai un petit peu d'expérience, donc ça devient plus facile.
Qu'est-ce qui faisait défaut?
Ah, c'est super dur d'enseigner. Ah ben, moi je savais réparer un cheval, enfin en tout cas dans les limites de mes connaissances et de mes moyens, je savais m'en occuper. Mais maintenant il faut dire comment on fait, faire une progression, donner l'acquis théorique aux gens. Donc c'est de l'enseignement comme l'enseignement de la lecture ou du français ou des mathématiques.
Si vous fermez les yeux, que vous pensez à Upton, votre cheval, quelle image émerge immédiatement?
Bah, la rencontre, hein, franchement, j'ai ce cheval terrifié qui s'approche pas à pas, qui au moindre stress, qui explose d'une manière extrêmement violente et dangereuse. Et puis, quand vous devenez quelqu'un qui les comprend, là, il vous adore. C'est très gratifiant, évidemment.
On va aller le voir, là.
Oui, on va aller le voir. Je vais faire une démo dans une demi-heure. Là.
On y va?
On a le plaisir de recevoir tout d'abord un invité de marque qui est venu nous parler cet après-midi de sa passion, de son amour pour les chevaux. Et c'est un adepte, lui aussi, de cette approche éthologique de l'équitation. Veuillez l'accueillir avec des applaudissements, monsieur Thierry Lhermitte.
On n'imagine pas que ce qu'il y a dans la tête de cet animal. Je ne sais pas si vous l'entendez souffler un petit peu. Il y a un petit peu de stress quand même, même s'il a l'air très gentil. On peut trotter. Galop. On peut évidemment marcher en main. Et trotter en main, et s'arrêter, et reculer, heureusement, et repartir. Ok. Oui. C'est bon. Ouais.
Oui, c'est bien d'être sous la main, sans doute, hein, de Thierry Lhermitte, et en tout cas en virée comme Sophie Bobert, notre reporter, au Haras de la Sens. Rue des Écoles, vous étiez préparé comme à l'habitude par une équipe qui chuchote et qui galope. Martin Kenéen, production, attaché d'émission Marie Dalquier, réalisation Somanina, avec à la technique aujourd'hui Jean-Frédéric. Pour réécouter, podcaster, partager cette Rue des Écoles, franceculture.fr. Et dans un instant, le journal de la rédaction.